Les balados OIC, un projet de l'Observatoire de l'imaginaire contemporain, en collaboration avec Figura, vous propose un épisode de la série « Imaginaire et éthique ».
Bienvenue à cette séance du séminaire s'intitule « Études de l'imaginaire et des idées », donc « Équité, diversité, inclusion, décolonisation ». Donc la première à intervenir sera Paola Ouedraogo. Et candidate donc au doctorat en études littéraires à l'UQAM sous la direction d'Isaac Bazier, cofondatrice de la maison d'édition Diverses Syllabes, créée par et pour les femmes racisées et personnes minorisées dans le genre, elle se spécialise dans les corpus africains, caribéens, postcoloniaux et féministes. Ses recherches portent sur les réécritures de l'histoire afro-caribéenne, la transmission intergénérationnelle et les narrations qui contestent l'hégémonie discursive pour faire exister les vécus de personnes minorisées. Au sein de la littérature. Par ses travaux, elle cherche à promouvoir des pratiques et des cultures marginalisées comme celle des Antilles, dont elle est issue, pour décoloniser le milieu des arts et les sphères du savoir. Donc là, maintenant, je vais laisser la parole à Paola pour la première intervention. Merci.
Bonjour. Merci de me recevoir. Ça me fait vraiment plaisir. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de table ronde à cause de la thèse. Voilà. Aujourd'hui, il s'agit de réfléchir au rapport entre les principes d'équité, de diversité, d'inclusion, de décolonisation et les études de l'imaginaire. Puis, finalement, il y a une question qui habite globalement mes recherches et mes projets personnels, c'est de savoir justement comment produire et transmettre un savoir engagé qui va s'ancrer dans une posture spécifique et répondre à des enjeux politiques. Personnellement, j'aborde la décolonisation comme une posture, voire un point de vue situé. C'est-à-dire que je ne pense pas être la seule à dire qu'il n'est pas forcément possible d'avoir une objectivité scientifique pure dans la recherche, en particulier dans le domaine littéraire, qui ne se caractérise pas par une méthode systématique à suivre. Puis ma recherche doctorale est éminemment personnelle, en fait. Elle est déterminée par un point de vue situé, lié à une corporéité et à des questionnements identitaires. Pour moi, c'était vraiment impossible de travailler sur un sujet qui soit déconnecté de ma réalité et surtout qui ne bénéficie pas, d'une certaine manière, aux communautés dont je suis issue. Alors, je pars d'un point de vue de femme racisée afro-antillaise qui étudie dans une université francophone nord-américaine. Évidemment, ça influence mes recherches. Ça leur donne sens, selon moi, puisque dès le départ, quand je suis rentrée à l'université, puis au cycle supérieur, j'avais le désir de travailler sur des œuvres de femmes africaines et antillaises, sur des savoirs minoritaires qui n'ont pas forcément de place, enfin une place de choix, en tout cas, dans les sphères de savoir. Donc, c'est une posture que j'assume dans ma recherche doctorale et qui répond à des engagements militants. Ça implique aussi de reconnaître les privilèges qui vont être liés à cette posture. C'est pas un gros mot de reconnaître qu'on a des privilèges. Il est nécessaire, en fait, de comprendre que la décolonisation, ça passe par une déconstruction que tout le monde doit effectuer, y compris les personnes issues de minorités. Donc, on n'est jamais à l'abri de reconduire des oppressions dans la recherche ou dans les interactions quotidiennes. Et cette déconstruction, elle s'effectue en continu, à vie, en fait. C'est comme une paire de lunettes qu'on met un jour, puis qu'on ne peut plus jamais vraiment retirer. Certes, je me situe au sein de communautés qui sont marginalisées et opprimées, mais je bénéficie également des privilèges qui sont liés à la blanchité, au fait que j'ai accès à des études universitaires, que je suis issue de la classe moyenne, etc. Donc c'est pour moi tout le sens de l'intersectionnalité. On parle d'intersection des oppressions, mais aussi d'intersection des privilèges. Donc c'est une notion qui séduit beaucoup à l'heure actuelle, l'intersectionnalité, mais qui malheureusement est souvent dévoyée de son sens, puis réapproprié sans réelle mise en contexte. Donc, tout ceci, ça va orienter la manière dont j'aborde en fait les questions qui font l'objet de ma recherche. Puis, c'est nécessaire pour moi de me situer par rapport à cette recherche et de reconnaître les possibles biais qui viennent avec. C'est quelque chose qui se fait en sociologie et qui, selon moi, doit s'appliquer aussi au domaine artistique, aux recherches en littérature, encore plus quand on traite de sujets qui sont éminemment politiques. Ça ne sera pas une présentation énormément théorique, mais je vais quand même m'appuyer sur certaines théories. Donc il y a Michael Tsang qui pose la question, en fait, « What does it mean to decolonize ourselves ?» Et pour lui, ça se fait en trois étapes qui sont complémentaires. D'abord, « to act, to reflect and to learn ». Donc ça implique finalement de reconnaître que les phénomènes s'inscrivent sur un continuum, que notre présent est influencé, voire structuré par l'histoire du colonialisme, par la colonialité, et que les dynamiques de pouvoir qui sont à l'œuvre dans nos sociétés sont le fruit de ces systèmes. C'est finalement la première étape pour pouvoir comprendre et agir. Quand on parle de décolonisation, moi j'y vois plus ou moins deux volets. En tout cas, ma démarche de décolonisation personnelle se fait en deux volets. C'est-à-dire, en premier lieu, comment on s'assure dans les faits d'appliquer les principes d'équité, de diversité, d'inclusion et de décolonisation au sein même des institutions et d'être réellement inclusif, et de décoloniser ces structures. Finalement, ce sont des termes qui, encore une fois, sont assez populaires, mais qui finissent par être un peu vidés de leur sens. Donc oui, on forme des comités, oui, on engage des membres des minorités, mais comment on s'assure d'intégrer ces personnes-là au sein des hautes instances de savoir et de légitimation pour leur donner voix au chapitre dès le départ, en fait, pour qu'ils ou elles puissent prendre des décisions dès le départ. Et finalement, le deuxième volet, c'est comment prendre en compte ces principes dans la recherche même, donc dans la production même des savoirs. Comme je disais, en me basant un peu sur ce que disait Michael Tseng, le premier volet, donc, c'est « to act », donc la décolonisation en action. Dans mes initiatives personnelles, comme ça a été mentionné dans ma présentation, j'ai cofondé une maison d'édition, les éditions Diversilab, qui est féministe, intersectionnelle et queer. Donc c'est une maison par et pour les femmes autochtones, les femmes racisées et les personnes minorisées dans le genre. On a maintenant un site web. Évidemment, je vais faire un peu de promotion, mais on a un site web. Et sur le site web, il est mentionné que la maison donc, naît à l'été 2020, je cite, « d'un ras-le-bol contre le colonialisme et le patriarcat, mais aussi d'un espoir de changement, d'une envie de contribuer à une société plus équitable, d'un désir de se rassembler, d'une volonté de donner à entendre les voix de celles qu'on a fait taire. » Donc la mission de la maison, c'est, encore une fois, je cite, « de donner les moyens aux femmes autochtones, aux femmes racisées et aux personnes minorisées dans le genre de partager leurs paroles au sein du milieu littéraire québécois, dans un climat humble et bienveillant. » Donc la maison se pense comme un laboratoire intersectionnel et veut devenir un espace de création, de diffusion et de réflexion solidaire dédié aux artistes des diversités œuvrant dans le milieu littéraire. Finalement, les éditions Diversilab investissent une niche en s'adressant à des catégories de population qui sont sous-représentées dans le milieu littéraire. Évidemment, on s'est heurté à beaucoup de critiques. On a parlé de communautarisme, d'exclusion. On nous a mis en évidence qu'il y avait déjà des structures qui étaient dédiées aux écrivains, écrivaines, femmes, féministes, racisées. Mais bon, selon moi, il n'y en a jamais assez, puisque ces structures-là sont obligées de refuser des manuscrits. Donc ça. Mais bref, donc énormément de critiques. Mais je pense que ce qui fait vraiment l'originalité du projet, c'est la perspective intersectionnelle dans la création même déjà, c'est-à-dire que les cofondateurs sont tous et toutes issus de ces minorités. À l'origine, on a une structure qui est réellement horizontale, c'est-à-dire que tout le monde a voix au chapitre. On a participé à beaucoup d'activités pour promouvoir la mission de la maison, donc des tables rondes, on a fait des interventions dans des salles de classe, on a participé au salon du livre, beaucoup d'entrevues, etc. Dépendamment des activités, en fait, c'était pas toujours les mêmes personnes qui allaient, les mêmes cofondateuristes qui allaient présenter la maison. Donc ça, les éditeuristes aussi sont membres de ces communautés. Et nécessairement, comme je parlais tantôt de point de vue situé, ça vient avec une certaine sensibilité aux enjeux qui sont déployés dans les textes. Le regard, c'est un regard de compassion, de care et de bienveillance, en fait. Donc on a publié notre premier ouvrage, « Il y a des joies dont on ignore l'existence », en novembre 2022. À l'issue d'un long processus, on a eu beaucoup de difficultés à obtenir du financement. Donc cet ouvrage célèbre en fait les joies des communautés, des joies qu'on ne peut et qu'on ne veut pas forcément reconnaître. Ça parle de non-mixité, d'identité créole composite, de non-binarité, de résistance, de l'amour en fait qui forme des petites communautés. Et ça le fait dans plusieurs langues, donc je vous invite à le lire, l'emprunter, l'acheter, bref. Et selon moi, évidemment je suis très objective, mais selon moi c'est quand même une initiative qui est inclusive en fait dans la structure, dans le fonctionnement et la mission, qui est également équitable parce qu'elle prend en compte les besoins spécifiques des communautés marginalisées et elle vient pallier un manque. Elle fait preuve de diversité outre le nom, n'est-ce pas, Diversilab, au sein de l'équipe et des autoristes qui sont publiés. Et elle participe finalement d'une volonté de décolonisation épistémique puisqu'elle veut faire accéder à l'institution littéraire des voix qui en ont été délaissées, brimées, exclues. Enfin, le deuxième volet, comme je disais, c'est donc la décolonisation épistémologique, « to reflect and to learn ». Ma démarche personnelle de compensation épistémologique, c'est de mettre l'accent, comme je disais, sur les angles morts du milieu académique en relayant des voix minoritaires. Ça implique de reconnaître en fait le fait que les savoirs sont ceux qui façonnent nos imaginaires, qu'ils déterminent en fait notre rapport au monde et aux autres. Je m'inspire évidemment des premiers mouvements postcoloniaux et décoloniaux. Annibal Quirano et Walter Mignolo pensent la décolonisation en fait comme un projet qui est politique évidemment à l'origine, notamment avec la conférence de Bandung en 1955, mais surtout épistémologique, c'est-à-dire qu'il y a une volonté de rompre en fait avec les structures de savoir imposées par l'Occident. Selon eux, la matrice coloniale du pouvoir est ce qui contrôle en fait la nature et les ressources, l'autorité, le genre, la sexualité, la subjectivité, la connaissance et l'économie. Et cette colonialité, elle est par essence totale et elle exclut. Donc la posture de désobéissance épistémique dont parle Walter Mignolo, c'est ce qui permet de défaire cette structure pour mieux refaire, en fait. Donc il s'agit vraiment de déconstruire la connaissance occidentale qui se veut universelle pour laisser place à une pluriversalité des savoirs. Ça implique donc la création de nouvelles structures, par exemple la diverse syllabe. Spécifiquement dans mon sujet de thèse, je me focalise sur les écritures insurrectionnelles chez les écrivaines noires, africaines et caribéennes francophones contemporaines. C'est-à-dire qu'on observe une tendance en fait chez les écrivaines africaines et caribéennes francophones à réécrire l'histoire de leur région. Et mon postulat, c'est que en réécrivant cette histoire, elles font acte de désobéissance épistémique. C'est-à-dire qu'elles vont produire leur propre récit historique, un contenu, voire même leur propre poétique, donc une forme. Et là, je m'inspire des travaux d'Édouard Glissant, qui parle de contre-poétique. Et cette contre-poétique, elle vient court-circuiter en fait le discours dominant. Donc ces écritures se focalisent majoritairement sur des personnages de femmes, sur l'apport en fait des femmes à la grande histoire, qu'on appelle très souvent l'histoire des grands hommes. Donc cette grande histoire qui est à la fois le fait des puissances colonisatrices, mais aussi des systèmes patriarcaux qui sont implantés dans leur propre société. Donc les femmes noires africaines et caribéennes francophones font l'objet d'une double invisibilisation finalement, de par leur appartenance raciale et leur appartenance genrée. Donc moi je me focalise sur un corpus des années 2000, donc de l'extrême contemporain on va dire, des œuvres de Guadeloupe, Martinique, Haïti, Cameroun, Sénégal et Côte d'Ivoire. Donc 6 aires géographiques distinctes mais qui sont unies par une histoire partagée qui est celle de l'esclavage, de la traite transatlantique et de la colonisation et qui sont structurées finalement par des violences inouïes qui et sont encore à ce jour sous le joug de dynamiques néocoloniales. Donc l'enjeu finalement dans ma recherche, c'est de voir comment vont se traduire ces dynamiques-là dans la fiction et surtout comment l'écriture littéraire permet de les déconstruire pour produire autre chose qui serait de l'ordre d'une épistémologie propre, d'une histoire alternative, voire d'une autre langue des femmes avec ses structures et sa logique propre. Donc c'est Leonora Miano, une autrice et essayiste camerounaise, qui essaye de théoriser justement cette autre langue des femmes à partir de l'écriture de l'histoire du continent. Finalement, les réécritures de l'histoire ne sont pas, dans cette perspective-là, juste une tentative d'écrire une histoire qui n'a pas encore été écrite ou d'écrire l'histoire d'un autre point de vue. Ça participe évidemment de ces dynamiques-là, mais ça va plus loin que ça. Donc, quand je parle d'écriture insurrectionnelle, je parle d'œuvres finalement qui traitent d'événements, de moments de révolte, de mouvements sociaux qui vont prendre place dans un temps contemporain, donc que ce soit les guerres d'indépendance, les guerres civiles, les révoltes populaires contre les pouvoirs dictatoriaux et coloniaux. Mais en fait, ce volet thématique-là se double d'un volet plus scripturaire, c'est-à-dire que l'écriture de ces mouvements-là se fait au travers d'une langue qui refuse elle-même en fait, de se soumettre à un ordre établi et qui se fait autoréflexive. C'est-à-dire qu'il va y avoir énormément d'usage de l'oralité, beaucoup de métadiscours qui va permettre la critique en fait, et la déconstruction à même la langue de l'histoire officielle, de la polyphonie, de l'intertextualité pour créer une espèce de bibliothèque de référence postcoloniale. Donc, c'est-à-dire que la langue vient épouser en fait le contenu même de ces écritures-là. Finalement, l'insurrection, telle que je la perçois dans cette recherche-là, elle déborde le cadre même des actes sociopolitiques révolutionnaires. C'est-à-dire que les femmes africaines et caribéennes francophones n'ont pas forcément à traiter directement de ces sujets pour répondre à une dynamique littéraire insurrectionnelle. Parce que finalement, il y a un continuum des violences historiques qui continue de s'inscrire sur les corps, les individus féminins racisés, qui s'adaptent, qui se reconfigurent pour continuer à opérer. Et donc la révolte déborde le cadre contextuel des mouvements politiques insurrectionnels. Par exemple, Calix Beyala, qui est une autrice camerounaise, qui s'insurge contre la condition féminine au Cameroun, va traiter finalement de réalités qui sont passées sous silence, de la condition des femmes, de réalités qui ne sont pas forcément à ce moment-là rentrées en littérature, et elle le fait dans une langue qui est iconoclaste. Et ça rentre également dans le cadre des écritures insurrectionnelles. Puis ça montre que la littérature peut permettre de s'insurger socialement quand, même dans la société, les structures de domination ont réussi à faire taire la parole. Enfin, j'aimerais montrer dans cette recherche, dans cette thèse, qui verra le jour, peut-être un jour, que la posture des désobéissances épistémiques s'exerce par la mise en place d'une contre-poétique dissidente, ce qui permet la réécriture décoloniale de l'histoire de l'Afrique et des Antilles. Donc, j'ai souvent entendu dire qu'il ne faut pas réécrire l'histoire. Moi, j'aime bien dire que oui, c'est important de réécrire l'histoire, du moins au niveau littéraire, c'est quelque chose qui peut se faire, parce que celle qu'on nous inculque n'est pas objective, elle est déterminée, donc ça a souvent été démontré, elle est écrite du point de vue des vainqueurs. Et ce que nous montrent finalement ces autrices-là, c'est la nécessité d'écrire, d'abord au niveau fictionnel, une histoire par le bas, celle des anonymes, des femmes noires racisées, pour déconstruire un discours dominant, décoloniser nos mentalités et faire devoir de mémoire. Pour finir, je vais vous laisser sur une petite citation de Leonora Miano qui explique, je cite, « Les subsahariennes qui enfantèrent l'humanité n'ont nul besoin de mendier une chambre à elles dans la grande maison bâtie par d'autres. Il importe simplement qu'elles réinvestissent leur histoire et sachent, à partir de leur matrimoine, forger les outils de leur autodétermination. Une fois cette connaissance de soi reconquise et actualisée, elles prendront conscience de la richesse qui leur incombe de partager avec toutes. C'est donc bien le sens de la décolonisation, c'est-à-dire de « to act », to reflect, to learn, et je pense que j'ajouterais to recreate aussi. Voilà.
Merci beaucoup, Paola. Donc, la deuxième intervention sera celle de Diarra Traoré. Responsable de la mobilisation des connaissances au Centre de recherche interdisciplinaire sur la justice intersectionnelle, la décolonisation et l'équité, donc le CRI-JAD de l'Université de Montréal. Docteur en sociologie de l'UQAM en 2014, elle s'intéresse à la production de savoir des femmes africaines, la religion et la migration dans une perspective critique et postcoloniale.
Alors, moi, j'aborde un peu la thématique selon une autre approche, je dirais aussi selon une autre discipline. J'ai eu un parcours assez atypique en termes de ma formation de recherche et universitaire, dans le sens où j'ai eu un parcours pluridisciplinaire dans un entre-deux entre les études littéraires, l'anthropologie et la sociologie. Et c'est un peu de là que mes réflexions partent. Mes travaux anthropologiques se sont intéressés à tout ce qui est pratique et construction de savoir et récits de vie par les femmes musulmanes ouest-africaines au Québec, en particulier dans la grande région de Montréal. J'ai mené un terrain de 2 ans, entre 2011 et 2013, suivi d'entretiens récurrents avec les femmes entre 2014 et 2019. Et mes intérêts étaient de comprendre comment est-ce que le rapport au corps et le rapport au religieux pouvaient informer une certaine esthétique, une esthétique de production d'une identité particulière dans un contexte migratoire, toujours en opposition à certains discours dominants et certaines populations dominantes au niveau, par exemple, des musulmans à Montréal. Et plus tard, ce qui m'a intéressée, puis c'est un peu sur ça que je vais me pencher aujourd'hui, c'est la construction de l'Afrique. Donc la construction de l'Afrique comme home, le pays, chez soi, parmi ces femmes immigrantes originaires de l'Afrique subsaharienne au Québec. Et comment est-ce que cette construction se faisait à travers l'esthétique vestimentaire, cosmétique, culinaire, religieuse? Et mes observations ont montré jusqu'ici que les femmes opèrent des constructions genrées du continent d'origine, qui vont osciller entre une captation qui est tantôt nationale, tantôt ethnique, tantôt racialisante, tantôt essentialisante de la fonction d'être une femme africaine. Et sur la base d'un cadre théorique postcolonial, je me suis interrogée sur ces constructions, en dialogue avec la notion de home et de unhomely de Homi Bhabha, inspirée par Das Unheimliche de Sigmund Freud, pour mieux comprendre le redéploiement de l'identité en contexte migratoire. Donc, dans son sens original, l'inquiétante étrangeté, c'est comme ça que ça a été traduit comme terme en français, de Freud, fait référence à cette angoisse, cette sensation d'être confronté à quelque chose de familier et pourtant menaçant dans le cadre de l'espace intime de l'individu. Bhabha va exploiter ce concept dans sa théorisation de la postcolonialité comme identité confrontante et confrontée par le legs colonial. Et Victor Turner, sur la base de la notion de liminalité, qui était en fait produite par Van Gennep à la base, mais que Victor Turner, un anthropologue, va récupérer pour analyser les symboliques de certains rituels dans ces terrains en Afrique, notamment en Zambie. Victor Turner va lancer la notion de liminalité. Bhabha va récupérer cette notion-là pour postuler que le lieu peut être examiné pour les ruptures qu'il représente, tant au niveau de chez soi, home, qu'au niveau de l'inquiétante étrangeté, unhomeliness. Au Québec, ces femmes africaines articulent leur positionnalité en rapport avec certains binarismes, donc nord-sud, Afrique-Caraïbe, Afrique homogène versus État-nation-ethnie. Puis je veux juste préciser que ce que j'entends par postcolonial, parce qu'il y a des débats là-dessus, surtout avec l'émergence des théorisations décoloniales, c'est que j'entends le postcolonial ici comme un cadre qui ne signifie pas le dépassement du fait colonial ni sa fin, mais plutôt sa continuité dans la conscience des sujets qui sont héritiers du legs colonial et des formes actuelles du néocolonialisme. Alors j'ai pensé certaines réflexions en lien avec ce séminaire d'aujourd'hui pour examiner les articulations de tous ces enjeux sur le plan de l'imaginaire, en tenant compte de la postcolonialité et des enjeux de genre. Donc on va parler de l'imaginaire comme étant la source de l'imagination, on parle d'imaginaire souvent attaché à un lieu, à une culture. Alors qu'est-ce qui se passe quand on migre? Quand il y a migration, il y a donc déplacement géographique, et déplacement géographique va impliquer déplacement de l'imaginaire, et déplacement de l'imaginaire va par conséquent produire aussi un déplacement de l'imagination. Alors, trois éléments m'interpellent sur lesquels je souhaiterais m'attarder maintenant. Le premier, ce sont les frontières. Le deuxième, ce sera l'appartenance, et je mets entre parenthèses non-appartenance. Le troisième, c'est la construction de l'Afrique. Donc, pour parler des frontières, je ne peux pas parler de frontières sans parler d'abord de silence. Aller sur un terrain avec des femmes ouest-africaines, on se heurte, surtout je travaillais avec quatre pays en particulier, la Guinée, le Sénégal, le Mali et le Niger. Donc des pays qui ont été choisis à cause de la prédominance de l'islam justement en leur sein. Je me suis heurtée en premier lieu au silence. J'avais du mal à faire parler les femmes, j'avais du mal à arriver à s'ouvrir, à ce qu'elles arrivent à s'ouvrir et puis à m'exposer un peu leur parcours migratoire et les problématiques qu'elles rencontraient dans leur vie de tous les jours. Et une des choses qui me vient à l'esprit, c'est qu'en fait, ce silence, à la base, était un marqueur de frontière, déjà. Donc, l'inscription de la marginalité dans le métarécit des femmes ouest-africaines en contexte québécois. L'immigration, en soi, devient une acceptation, l'acceptation d'une captivité à l'intérieur de la marge. Le centre, le Québec français, franco-catholique, qu'on va qualifier de pure laine, le centre demeure inaccessible pour elles. Elles vont donc devoir se définir à l'extérieur de celui-ci et à se résigner face à l'infranchissabilité de ses frontières, face aux limites tracées par la territorialité des États-nations, également modèle occidental de l'appartenir. On est donc face à un imaginaire de l'impossibilité. Face à cet imaginaire de l'impossibilité, les femmes vont devoir déployer une performance. Elles tombent dans une forme de béance, la béance de sens, de référence, d'identité, mais vont devoir quand même travailler à préserver leur agentivité. Cette agentivité va prendre la forme dans les mises en scène et dans les mises en corps de ces femmes-là au niveau esthétique, au niveau de la performativité religieuse, la performativité professionnelle. Tous ces engagements vont déclamer les efforts et le travail invisible mis en place pour préserver cette agentivité, malgré qu'il y ait cette impossibilité justement d'appartenir, pour parler en termes populaires, de fitter. L'impossibilité demeure, érigée en mur frontière, séparateur de nation et d'identité. Ça va se déployer ici en termes de franchissement de frontières à plusieurs niveaux. Les relations interraciales. Dans une de mes publications passées, je me suis intéressée au discours sur la frontière tel qu'il émergeait dans deux œuvres littéraires produites par des femmes ouest-africaines musulmanes qui négociaient l'ailleurs et le chez-soi. Ken Bougoul dans Cendre et Braise et Fatou Keïta dans son roman Rebelle vont aborder les relations sentimentales interraciales. Et chose surprenante, dans ces deux romans, ces relations finissent par un échec. Il y a une rupture, il y a de la violence, il y a de la souffrance, il n'y a pas le happy ever after. Par la suite, d'ailleurs, dans ces romans, le retour à l'Afrique devenait inéluctable. Dans le cas de Ken Bougoul, la jeune femme va devoir retourner au village et se marier avec un marabout, après une relation avec un Français en Europe. Et il y a une double symbolique aussi avec la figure du marabout, mais ça c'est un autre débat. Et le fait d'être noir, quand on va regarder les milieux associatifs musulmans, même à Montréal, on sort des romans, on revient dans le terrain ethnographique que j'ai mené, le fait d'être noir dans ces milieux associatifs musulmans, qui étaient majoritairement arabophones et maghrébins à Montréal, ou encore indo-pakistanais, il y avait encore des barrières qui émergeaient. Donc le centre se redéfinissait constamment comme appartenant à ceux qui l'avaient établi, défini et qui le préservaient activement. Donc on rentre ici dans les dynamiques de pouvoir et de maintien de ces pouvoirs à travers la définition du centre, la préservation du centre. Un autre exemple de franchissement de frontières, ce sont les circuits thérapeutiques. Donc, je veux parler brièvement de la maladie. Par la maladie, on entend l'absence de plénitude, le fait qu'il nous manque quelque chose, le fait de ne pas être complet. Cela va s'exprimer par une appréhension. Ça, c'était vraiment quelque chose de particulier à voir. Le thérapeutique en contexte québécois était perçu comme inadéquat, incapable de rendre complet l'être. Donc, se focalisant uniquement sur le corps, en négligeant l'aspect spirituel. Et les femmes, dans deux des récits de vie que j'ai eus, il y a eu des situations de santé mentale. Donc, deux des femmes, une d'elles a eu des incidents de crise psychotique, a dû être hospitalisée à l'hôpital Douglas, notamment. Suite à sa sortie de crise, sa famille a tout de suite cotisé de l'argent pour la faire retourner en Guinée pour se faire soigner localement auprès d'un guérisseur traditionnel avant qu'elle revienne. On a un deuxième cas, il y en a une qui souffrait de dépression répétitive et que sa mère lui a dit « il faut que tu rentres au Sénégal, qu'il faut qu'on te lave au Sénégal avec des feuilles pour que tu puisses être libérée de ce fardeau spirituel, etc. » Et on parle ici de femmes qui sont hautement scolarisées, majoritairement universitaires, diplômées, professionnelles dans différents milieux. Et quelque part, ce qui est frappant, c'est que lorsqu'il y a confrontation à des problèmes de santé ou à des incapacités, le circuit thérapeutique exige un retour vers la source, le continent africain. Donc ça, c'était un autre exemple intéressant au niveau des frontières. Le troisième exemple de franchissement de frontières, c'est la question de la religiosité. Donc, dans un contexte d'islam mondain, d'islam mondialisé, les femmes vont devoir s'extirper de la typologie identitaire populaire sur les musulmans. On va voir au sein des mosquées à Montréal des frontières. Elles arrivent dans les mosquées, elles ne sont pas arabes, ne parlent pas arabe pour la majorité, et se le font rappeler ouvertement lors d'activités organisées par les associations religieuses. Un exemple sur le terrain a été une activité qui s'appelait The Friendship Circle, qui était organisée par l'Association des étudiantes musulmanes de McGill et Concordia. Ils ont loué un local, c'était supposé être une sorte de pique-nique, et plusieurs femmes ouest-africaines y sont allées. Et une fois sur place, il y a eu dans la programmation l'idée de faire une projection d'un film documentaire d'un orateur, Tariq Ramadan à l'époque, un orateur assez populaire de l'islam. Ils ont décidé de le projeter en arabe. Les femmes ouest-africaines, c'était deux, il y a deux Sénégalaises ce jour-là, ont dit, ben, est-ce qu'il y aura une traduction en français ou... Ah, mais non, vous ne parlez pas arabe. Non, on ne parle pas arabe. Ah, mais est-ce que vous savez qu'au paradis, on parle en arabe? C'est un devoir pour vous en tant que musulmane d'apprendre l'arabe. La langue du paradis, c'est l'arabe. Alors tout de suite, il y avait ici encore une fois l'érection de frontières. Et ça, ça va aussi s'articuler au niveau du port ou non du hijab, qui vient nourrir une esthétique de la différence pour ces femmes. Une différence soit externe à la communauté, pour les hijabis, soit interne à la communauté, pour les non-hijabis. Donc là-dedans, on est vraiment dans une intersection de positionnement assez complexe. Mon autre enjeu d'intérêt, c'est la question de l'appartenance. Donc la non-appartenance, l'appartenir finalement, libérer des attentes, faute d'être atteignable par les femmes immigrantes de la première génération, devient en réalité un projet pour la deuxième génération, parce que l'appartenance est impossible. Omi Baba va parler du fait que, quand il va parler de Unhomely, dans son texte qui s'appelle The World and the Home, le fait d'habiter dans un espace indissociable de l'étrangeté. On est étrangère et on accepte de l'être dans trois espaces qui définissent le centre. L'espace linguistique, l'espace ethnique, puis l'espace religieux. Il faut donc évacuer l'espoir d'appartenir, qui normalement fait partie du projet migratoire en soi. On immigre parce qu'on a espoir qu'on va réussir à appartenir à la société d'accueil. L'individuation globalisée vient postuler une opportunité de s'intégrer, de réussir à s'insérer dans le cercle du centre. Mais en réalité, l'appartenance va devoir demeurer ancrée et enracinée dans le continent africain lui-même, et nulle part ailleurs. Raison pour laquelle la guérison, c'est-à-dire l'acte de réparer, de colmater, de restaurer, ne peut prendre place que sur le continent africain. Africa as home, disent certains. C'est ainsi que les circuits thérapeutiques, comme je l'ai décrit tantôt, vont être redirigés, surtout quand il y a mal-être, quand il y a incohérence, ce qui va se manifester notamment par la question de crise psychotique et de santé mentale. La liminalité, c'est un concept qui m'a vraiment confrontée par rapport à la notion d'appartenance, parce que le liminaire est un entre-deux. Victor Turner va postuler que le liminaire, la liminalité est un moment et un lieu de retrait des modes normaux d'action sociale, une période d'examen des valeurs centrales. Mais dans la théorisation de Victor Turner, il s'agit de quelque chose de temporaire. C'est entre deux, donc on va parler ici par exemple de rite de passage, et rite de passage pour devenir un homme ou devenir une femme quand on est adolescent. Mais après, on finit par devenir l'homme ou la femme et à avoir un rôle dans la société. Tandis que pour les personnes qui sont en contexte migratoire, cette liminalité est ad infinitum. Je ne sais pas si j'ai dit ça correctement d'ailleurs. Donc là-dessus, la structure même de la société est supposée être temporairement suspendue dans cette notion de liminalité. Mais qu'en est-il dans ce cas-là de la capacité d'appartenance quand on est dans cet éternel espace d'entre-deux que l'appartenance est impossible? Et le troisième et dernier enjeu, avant de conclure, c'est la notion de la construction de l'Afrique dans l'imaginaire des femmes émigrées. Et ce processus de faire sens s'articule toujours autour du projet de retour vers l'Afrique, que ce soit un retour temporaire, un retour momentané ou un retour permanent. Mais ce qui est frappant là-dedans, puis c'est à ça que je réfléchis en ce moment, c'est que tout appel à un retour à la pure Afrique et à des origines culturelles non contaminées obscurcit les réalités des effets culturels profondément enracinés et largement irrévocables du processus de transculturation qui a eu lieu et qui définit la longue expérience de colonisation. Il y a eu des débats par rapport à la fluidité de l'identité africaine, par Feston Kwala par exemple, qui parlait de comment Anthony Appiah, par exemple, dans son texte de 92, et plus tard Valentin Mundimbe, vont déconstruire l'essentialisme qui caractérise les discours sur le continent lui-même. Mais quand on regarde les récents développements en Afrique de l'Ouest francophone, notamment au Mali et au Burkina Faso, dans la dernière année, on est amené à revisiter ces constructions de l'Afrique dans l'imaginaire de la diaspora au Québec également, et dans celui des femmes par conséquent. Dans quelle mesure est-ce que ces conceptions du continent jadis ancrées dans les récits et discours sont-elles en train de se transformer, voire de s'émanciper d'une ontologie franco-européenne? Puis je pense que là-dessus, la présentation de Mme Ouédraogo est vraiment en plein dans ces nouvelles formes, ces nouvelles ontologies qui se développent en ce moment. Et je tiens juste à préciser que dans cet imaginaire de l'Afrique comme lieu de guérison, de restauration, il n'y a pas nécessairement une idéalisation du continent. Parce qu'on peut croire que les femmes de la diaspora expriment constamment le fait qu'elles sont conscientes de leurs avantages et des inégalités qu'elles ont laissées derrière elles. Donc, quelque part, elles savent que c'est un privilège pour elles de vivre dans un pays du Nord. La preuve en est que, même à l'extérieur, donc celles qui vont produire même des œuvres littéraires à l'extérieur du continent, elles ne vont pas y aller de main morte quant à dénoncer les inégalités sociales qui persistent. Donc le travail de Aïcha Fofana sur justement son roman « Mariage en copie » qui va être en fait le Mali, c'est autre chose aussi parce que la première romancière malienne ne va apparaître qu'en 1994, mais elle va dénoncer le mariage forcé, l'excision, la polygamie et le remariage à l'intérieur de la même famille. Ce sont des pratiques encore courantes. Je pense ici qu'on peut commencer à penser une liminalité épistémologique et il faudrait s'intéresser à théoriser justement potentiellement une liminalité épistémologique quand il s'agit des populations de la diaspora ou celles qui sont, si vous voulez, à distance de ce continent. Et d'ailleurs, je suis maintenant portée à croire, après avoir écouté Mme Ouédraogo, je vais conclure par ça, que peut-être cette liminalité épistémologique est aussi à théoriser par rapport aux productions, aux expressions au sein du continent lui-même.
Merci beaucoup, Diane. La dernière personne à intervenir sera donc Isaac Bazier, professeur titulaire au département d'études littéraires ici à l'UQAM, donc à l'Université du Québec à Montréal, chercheur à Figura, et ainsi que du Centre de recherche des études littéraires et culturelles sur la planétarité. Il est le fondateur de la revue Afroglobe et cofondateur et directeur actuel du laboratoire des Afriques innovantes, donc le LAFI.
En ce qui concerne l'équité, la diversité, l'inclusion et la décolonisation, j'ai été président de l'Association canadienne d'études africaines et j'ai demandé que le congrès annuel porte sur la question des études africaines et la question des DID. Donc, il y a là des préoccupations. Le fait qu'au fond, les savoirs ne sont pas désincarnés, il y a là quelque chose qui est engageant d'une certaine façon. Et là, je n'ai pas pu m'empêcher de repenser à une expérience que j'ai eue à l'automne 2020. Vous vous souvenez? Donc, toute la discussion sur le N-word est l'occasion ici pour moi de dire que j'utilise les mots dans un contexte dans lequel nous sommes en bonne complicité pour pouvoir faire circuler la parole et nous parler et nous comprendre, de telle sorte que je les utiliserai sans aucun problème et je pense que nous entendons à ce sujet. Donc, je vais utiliser un certain nombre de concepts qui ont fait la manchette. Et c'est de ça qu'il est question. Donc, il faut en parler, il faut voir. À l'automne 2020, je donnais un cours Institut des Caraïbes, et il y a eu une semaine où le mot N et toute la discussion était très passionnée. Et moi, je faisais lire Césaire, Aimé Césaire, cahier d'un retour au pays natal. Je vais vous citer donc Césaire ce matin. Moi, je me dis, c'est la théorie du complot. Et là, je me suis dit, c'est le complot parce que dans mon cours, nous avions ce texte du nègre révolté. Et mes étudiantes m'attendaient pour que je leur dise comment lire ce texte et comment parler de toute façon. Donc, j'ai suspendu mon cours une semaine pour moi-même réfléchir à certaines choses. Et Césaire, dans ce passage, parle du très bon nègre qui n'est pas justement le modèle du nègre, vous le savez très bien, vous connaissez le texte certainement, et qui, donc, il parle du très bon nègre, le décrit. Et puis ensuite, il dit ceci, « Le négrier craque de toutes parts, son ventre se convulse, et résonne. L'affreux ténia de sa cargaison ronge des boyaux fétides d'étranges nourrissons des mers. Et ni l'allégresse des voiles gonflées comme une poche de doublon rebondie, ni les tours joués à la sottise dangereuse des frégates policières ne l'empêchent d'entendre la menace de ses grondements intestins. Et il dit plus loin, la négraille, au senteur d'oignons frits, retrouve dans son sang répandu le goût amer de la liberté. Et elle est debout, la négraille. La négraille, assise, inattendument, debout dans la cale, debout dans les cabines, debout sur le pont, debout dans le vent, debout sous le soleil, debout dans le sang, debout et libre. Fin de citation. Alors, je me retrouve avec ce texte et il faut qu'on se parle. Quand j'ai vu l'appel, donc, je me suis dit, il y a ce lien et ces tensions qui traversent la société. J'ai déjà enseigné ce cours, je n'ai pas eu la discussion. Quelques temps plus tard, j'ai la discussion. Ça fait plus de 20 ans que je suis à l'UQAM et j'enseigne autrement, je parle autrement, parce que d'une certaine façon, donc la manière dont nous faisons la recherche et les imaginaires que nous fréquentons et les représentations avec lesquelles nous les pensons nous amènent, n'est-ce pas, à nous interroger. Très personnellement, donc, je me suis retrouvé dans ce débat-là, tout comme je me suis retrouvé là-dedans quand je lisais les textes sur le génocide rwandais dans un colloque et qu'un rescapé du génocide a dit « moi, j'étais là-bas ». Là, du coup, il y a quelque chose qui se passe dans la salle. Ouais. Alors, la raison pour laquelle j'ai suggéré que nous réfléchissions donc, sur ce qui est devenu un programme, un passage obligé pour toute institution qui se respecte ici au Canada et au Québec, équité, diversité, inclusion, décolonisation, et se dire qu'est-ce que nous faisons et qu'est-ce que cela véhicule d'une part du point de vue du politique, ce n'est pas mon propos, on laissera ça aux politiques, mais du point de vue donc des représentations et du point de vue de l'imaginaire, ce que donc ces représentations deviennent et tout ce qui se déploie dans notre société et dans nos salles de cours et dans notre recherche, qu'est-ce qu'on fait? Je me réjouis que, à Figura, nous puissions donc, dans cette optique-là, de l'imaginaire comme éthique, que nous nous arrêtions sur ce volet de la question. Il y en a d'autres, comme nous le savons. En écho à ce qui s'est dit avant moi, assez rapidement, l'Afrique comme lieu monde. Mais l'Afrique comme lieu monde, je suis parti de ce que je travaille en ce moment. Je vais vous présenter deux volets. Le premier concerne un peu le déploiement de ma recherche et le deuxième me permet d'aller beaucoup plus précisément sur certains contenus. Mais je vais parler d'infrastructure d'abord et puis bon, de quelques orientations et pour vous dire d'où je viens. Alors donc, l'Afrique comme lieu monde. Cette conception donc est le mouvement migratoire et plusieurs éléments de la grande histoire, Paola aussi en a parlé. Tout cela m'amène à réfléchir à la suite de gens comme, évidemment, Achille Mbembe, Moudimbe, Apia, Ferwin Sarr, plus récemment, Léonora Miano. Donc, réfléchir sur ce lien-là entre le continent et le reste du monde. L'Afrique comme lieu monde, c'est ce continent donc qui est singulier, mais qui a abrité, n'est-ce pas, plusieurs violences et qui fait que finalement, on se retrouve avec quelque chose qui ne se décline pas du tout, de toute façon, en termes de pureté. C'est un lieu ouvert, c'est un lieu monde, et donc j'ai publié plusieurs choses à ce sujet. Ce n'est pas de cela que je vais vous parler, mais c'est cela. Donc, un lieu monde, c'est cette conception donc, que l'Afrique est un lieu monde, fondamentalement. Lieu monde, lieu ouvert par définition, par la force de l'histoire. Ouverture qui est anti-exilique, c'est-à-dire qui vient avant l'exil, avant les grands mouvements migratoires, avant les déplacements des populations. Je parle là de l'esclavage, n'est-ce pas, et tout. C'est un lieu qui porte l'empreinte de l'étranger sur l'endogène, le saut violent du global sur le local, parce que c'est le propre de la colonisation. Donc, le monde s'est porté vers l'Afrique. Et ce faisant, l'afro-mondialité, telle que j'essaie de la définir, n'est pas le fait des gens qui sont sortis de l'Afrique vers le monde seulement, c'est le fait d'habiter un lieu qui, en soi, est marqué par le monde, par le local et le global. Ce n'est donc pas quelque chose qui est lié au mouvement nécessairement. Le mouvement, historiquement, ayant eu lieu, il a permis, de par donc, le fait qu'il soit un mouvement porté par la violence esclavagiste ou coloniale, il a structuré le lieu pour qu'il produise, pour qu'il soit un lieu de violence. Alors donc, en l'absence d'un agent anthropomorphique qui produit de la violence, le lieu en soi a été conçu, structuré pour que, rien que d'y habiter, on est marqué par cette violence-là. Galtung parlerait peut-être de violence structurelle, mais il y a différentes façons de le concevoir et de dire que donc, finalement, cette afro-mondialité est le fait de sujets qui investissent un lieu, se retrouvent dans un lieu qui a été marqué par le monde, donc qui forcément relève, n'est-ce pas, de l'hétérogène. Donc, ouverture, donc, j'essaie de la déconnecter du mouvement, c'est pour ça que je parle d'anti-exilique, mais ça peut être, c'est simplement dire, il n'est pas forcément lié au déplacement. Donc, comment j'ai fait dans la recherche que je mène? Je suis assis, quoi, c'est le bénéfice de la sabbatique, et puis on essaie de structurer ces affaires un peu. J'ai approché cette Afrique monde par le biais de l'étude des principes de canonisation des littératures africaines. Hein. Je suis rentré par cette porte-là pour voir avec ce que Goethe a appelé la belle littérature, c'est que la littérature mondiale, et que fait l'Afrique dans ce cadre-là, n'est-ce pas? Et voir comment on a produit une idée de l'Afrique, influencé une manière d'évaluer les productions culturelles et notamment la littérature par, du point de vue des institutions, comme le prix Nobel de littérature. Donc, ça, c'était une première façon d'aborder la question. Une deuxième façon de le faire, ça a été de travailler sur la figure donc, de l'Africain, donc interculturalité, le corps, de voir comment, donc par le corps, il y a eu toute cette idée, n'est-ce pas, de l'Afrique qui se construit à travers les siècles et qui s'est manifestée très concrètement, historiquement, politiquement, dans l'esclavage, la colonisation, comme nous le savons. Mais autour de cela, tous les discours qu'on a pu développer et, n'est-ce pas, les représentations diverses de cet imaginaire-là. Donc, approche par les représentations littéraires, j'ai mis entre parenthèses plusieurs choses ici, l'exotisme, la littérature coloniale, les littératures postcoloniales et ce que les approches décoloniales font. J'ai essayé de lire les violences liées à tout cela en travaillant avec les théories de la lecture et de la réception. J'ai commencé par là, depuis le doctorat, la maîtrise. Donc, développer un regard sur ces violences-là qui travaillent, n'est-ce pas, avec des approches qui pensent la lecture. Donc, voilà un peu avec quels outils je me déplace pour donner des assises à ces questions, un cadre pour déployer, participer, n'est-ce pas, à la structuration des savoirs, encourager aussi la production de ces savoirs-là sur l'Afrique. Alors donc, nous avons créé, avec Issac Yamandé et Marie-Nathalie Leblanc, le LAFI, le Laboratoire des Afriques innovantes sur l'Afrique, avec l'Afrique, qui travaille sur l'Afrique, avec un regard, n'est-ce pas, très, très préoccupé par ce qui se fait sur le continent, de manière à ce qu'on sorte de cette manière de faire la recherche sur l'Afrique, mais sans l'Afrique. Donc, pluridisciplinaire, forcément. J'ai aussi lancé la revue Afroglobe, je parle d'Afrique monde. Afroglobe, donc, pour penser l'Afrique dans le monde et inversement. La place des savoirs africains, les traductions en langues africaines, ce que je fais avec Afroglobe et l'équipe, c'est que nous traduisons les articles, les résumés, en swahili, en bamana, systématiquement, quand nous publions. Le processus éditorial s'en trouve bien alourdi, mais à ce prix-là, que d'une certaine façon et très concrètement, on peut inscrire quelque chose dans le contexte dans lequel nous voulons avoir diversifié les savoirs et les manières donc, de les produire. Donc voilà pour Afroglobe et ce cadre dans lequel j'ai de travailler avec des collègues sur l'Afrique. Dernière chose ici, c'est la question de l'Afrique qui, historiquement, a été orientée vers l'Occident, vers l'Europe et le monde occidental, de par les violences qui sont sorties de l'Europe, de son milieu qu'on pourrait qualifier de naturel, a été une sortie portée par une violence dont nous connaissons les résultats, en tout cas en ce qui concerne l'Afrique. Et du coup, la production des savoirs et la manière de lire le monde s'en est trouvée forcément marquée, biaisée. Et il y a une histoire de l'Afrique avec le reste du monde qui ne s'écrit pas ou qui s'écrit difficilement, parce que justement, je dirais ici, les discours dominants ou les paradigmes en place sont ceux-là qui ont été portés par l'histoire telle que nous la connaissons, de telle sorte que il suffit juste de penser à la présence de la Chine et d'autres puissances en Afrique et de lire ce qui se dit en Occident sur cette présence-là et on se rend compte qu'il y a là un grand travail qui se fait pour voir qui, quel sera l'avenir de l'Afrique vers le monde, par où est-ce que cette avenue doit passer. Et dans ce cas-là, je peux vous dire qu'au fond, l'Occident se positionne donc face à l'Afrique comme le traducteur, le passeur culturel, pour prendre le terme consacré, comme un passeur culturel entre l'Afrique et le reste du monde. Et pour traduire au sens fort du terme, ce qui vient de l'extérieur vers le monde, dans cet esprit qui est propre aux colonisateurs, une posture qui est celle, n'est-ce pas, de l'infantilisation, de la condescendance. Vous allez vous faire manger par le dragon chinois. Nous allons vous dire comment il faut faire. C'est presque littéralement cela. Donc, attention, il est dangereux, on va s'arranger. Alors, donc, nous sommes en train de créer avec les collègues l'Institut d'études afro-asiatiques et internationales, AFRASI, à Ouagadougou. Alors, donc, vous voyez ici, vous le savez, les deux éléphants. L'éléphant asiatique avec les petites oreilles, l'éléphant africain, n'est-ce pas, avec les grandes oreilles, c'est l'un des signes pour les distinguer. Si vous les rencontrez, vous sourirez, hein, n'est-ce pas? Alors donc, voilà, donc pour finir, ce sont donc des éléments. Voilà, alors le travail sur l'Afrique monde, c'est cela. C'est d'une part, participer à cette grande herméneutique dont parle Achille Mbembe, que Moudimbe a faite, et faire le bilan du rapport de l'Afrique tel que l'imaginaire occidental l'a produite, façonnée d'une certaine façon et mise en circulation. Mais d'autre part, c'est aussi quand même, pour ma part, et cela m'apparaît très, très instructif, d'aller voir ailleurs, c'est exigeant, parce que bon, après l'Allemagne, l'allemand, l'anglais, le français, bon, c'est autre chose. J'étais à Bandung, j'ai fait mon pèlerinage en Indonésie cet automne, pour voir ailleurs, entendre d'autres bruits, être à l'écoute d'autres imaginaires, et se dire qu'est-ce que ça aurait pu être et qu'est-ce que ça pourrait être finalement, voyez-vous. Alors donc, c'est de cela qu'il est question avec ce projet. L'Afrique monde, c'est le monde en Afrique. Donc, ce que j'ai dit, au fond, j'essaie de rendre compte de deux dynamiques. Donc, d'une part, l'Afrique, le monde en Afrique et l'Afrique après, dans le monde. Et la question des idées vient avec ça, au fond, c'est en grande partie. Si je considère l'aspect qui, n'est-ce pas, des afro-descendants, des diasporas africaines dans le monde, dans les sociétés donc non africaines, pour le dire ainsi. Le monde en Afrique, c'est la crise des savoirs endogènes. Il y a un texte très connu de Charles Midoukan, n'est-ce pas, L'aventure ambiguë, qui est vraiment le roman philosophique sur le choc, les rencontres difficiles entre l'Occident et l'Afrique, et le choc des cultures, des civilisations et tout. Et là, il y a quelqu'un qui dira, il est certain que leur école, l'école des Blancs, parce qu'il était question de savoir si on envoie les enfants africains à l'école du Blanc. Bon, au fond, ils discutaient comme s'ils avaient le choix. Ils ne l'avaient pas. Bon, mais on peut toujours discuter. Alors, il est certain que leur école apprend mieux à lier le bois au bois et que les hommes doivent apprendre à se construire des maisons qui résistent au temps. Ça, c'est quelqu'un qui parle dans un contexte où les gens n'habitaient pas dehors quand le colonisateur est arrivé. Alors, moi, j'ai des problèmes vraiment avec... j'ai réfléchi à ça, je me suis dit, mais... Il parle dans un contexte, au fond, où déjà la défaite est là. Elle est inscrite dans la manière de s'avouer vaincu par la valorisation, au fond, de l'exogène. Hein. Bon, il faut envoyer les enfants donc à l'école, à leur école, pour qu'ils apprennent à mieux lier le bois au bois et à construire des maisons qui résistent au temps. Et cette crise demeure. Quand nous parlons actuellement des savoirs endogènes et d'une certaine posture qui vise à travailler et à réfléchir aux questions à partir du continent, de l'intérieur géographique, mais aussi, au fond, du point de vue des postures, comme deux intervenantes l'ont dit, Paola et Traoré, c'est cela aussi, cette posture qui vise à dire, on veut réévaluer les savoirs et parler à partir d'un point de vue qu'on assume et qui est quand même différent, revoir le monde autrement et savoir que le mieux n'est pas forcément ailleurs. Achille Mbembe, sorti de la grande nuit, le monde en Afrique, dit au demeurant notre manière d'être au monde, notre façon d'être monde, d'habiter le monde, tout cela s'est toujours effectué sous les signes sinon du métissage culturel, du moins de l'imbrication des mondes dans une lente et parfois incohérente danse, avec des signes qu'ils n'ont guère eu le loisir de choisir librement, mais qu'ils sont parvenus tant bien que mal à domestiquer et à mettre à leur service. Domestiquer les signes étrangers, les mettre à son service et s'arranger avec d'une certaine façon. C'est la conscience, donc, cette imbrication de l'ici et de l'ailleurs. La présence de l'ailleurs dans l'ici et vice-versa. Cette relativisation des racines et des appartenances primaires, et cette manière d'embrasser, en toute connaissance de cause, l'étrange, hein, l'étranger et le lointain. Cette capacité de reconnaître sa face dans le visage de l'étranger et de valoriser les traces du lointain dans le proche, de domestiquer l'infamilier, hein, das Unheimliche, l'infamilier, de travailler avec ce qui a tout l'air des contraires. Au fond, Mbembe, on s'entend, travaille et réfléchit sur l'Afrique, telle qu'elle est le produit de ses violences et de tout ce qu'il a quand même est très, très bien déployé dans son œuvre théorique. Et ceci, donc, c'est le monde en Afrique. Mais j'aimerais dire, pour prendre un raccourci, parce qu'il faut s'arrêter quelque part, j'aimerais dire que sur l'autre versant, l'Afrique dans le monde, nous avons exactement, moi je pense, sans prétendre que les expériences historiques qui ont conduit à ces rapprochements sont les mêmes, nous avons rendu là où nous sommes les mêmes questions de l'imbrication des mondes, de la présence de l'infamilier qui est là et nous en parlons en termes de diversité. Tout cela pour dire que plusieurs de ces questions, en leur aboutissement, exigent le même effort de réflexion par rapport donc à la manière dont le monde se constitue maintenant, se comprend, dont les imaginaires s'entrechoquent et les représentations s'excluent dans cette recherche, n'est-ce pas, d'un équilibre qui est difficile à trouver parce que, bon, voilà, parfois les tensions sont très, très vives. Donc, la raison pour laquelle donc, le monde en Afrique, cette manière de penser l'Afrique et de la penser dans sa complexité telle qu'elle exige quand on voit la bicyclette avec ses deux pédales, c'est-à-dire que le local, le global, tout cela mis ensemble. J'ai déjà entendu des gens dire, pour excuser l'Africain en disant, bon, ou alors valoriser le mode de vie africain en disant, si tout ça entre guillemets, vous n'êtes pas stressé, vous savez profiter des choses et tout, en disant, bon, vous savez, on dit que les Blancs ont la montre et les Africains ont le temps. Je dis, au fond, le temps afro-mondial dont je parle exige que nous ayons les deux. C'est ça, c'est-à-dire que nous ayons une façon de vivre et que nous ayons aussi la montre. C'est-à-dire, au fond, on n'a même pas le choix. Et c'est ça, ce temps afro-mondial-là. Donc, et c'est un peu ce que j'essaie de penser en ce moment, l'afro-mondialité comme cette posture qui exige que l'on rende justice à quelque chose qui s'est constitué au fil du temps, dont la dimension factuelle, historique, n'est plus directement accessible, on s'entend, il y a longtemps, mais dont les effets sont très structurants pour les communautés et les individus. C'est de cela qu'il est question. Et cela ne concerne pas seulement l'Afrique afro-africaine, c'est-à-dire ceux qui sont sur le continent, cela concerne aussi ceux qui, par le fait de ces violences, sont exposés à la diversité liée à la présence de l'Afrique dans le monde. Et c'est le deuxième volet que j'aborde dans deux, trois phases là, et qui nous amène à parler d'équité, de diversité, d'inclusion et de décolonisation. Oui. Alors donc, l'Afrique dans le monde, et DID, équité, diversité, inclusion, décolonisation, c'est l'englobement violent. On a déplacé des millions de personnes et après cela, on organise et on organise des déplacements. Ce sont les politiques d'immigration. Moi, je regarde simplement, je me dis, bon, le Québec prend 50 000 personnes par an à peu près. Ça, c'est Saint-Hyacinthe ou c'est, disons, Rimouski, la population. Il faut se l'imaginer. Chaque année, si on crée une communauté à la dimension de Rimouski, ça ne peut pas se faire sans qu'on parle aux gens qui sont à trois pistoles, qui sont, je ne sais pas, il y a toute une mécanique. Là, il y a un choc des imaginaires, il y a des représentations qui vont rentrer dans l'espace public et ça ne se fait pas sans qu'il y ait des vagues. 50 000 personnes par an, ce sont des villages concrets. Si on regroupait toutes ces personnes, on aurait une meilleure appréhension de ce que cela peut signifier sociologiquement, culturellement et alors du point de vue des imaginaires et de ce qui tout cela provoque. Parfois, je suis assis chez moi, j'écoute les discours, j'écoute les politiques et puis je me dis, est-ce qu'on s'imagine? Oui. Donc, 50 000 personnes. Donc, là, il y a l'englobement violent, mais il y a aussi les mouvements de population négociés pour différentes raisons. Tout cela fait que nous sommes dans cette ère de la mondialisation et l'Afrique se trouve donc dans le monde. Et à partir de cela, il y a donc cette présence historique et afro-descendante et il y a les diasporas africaines. Et c'est par rapport à tout cela donc, que la réflexion aussi se mène. Alors, la diversité devient un mal nécessaire ou un accident de l'histoire. Toujours est-il donc que nous sommes aux prises avec cela. Penser l'imaginaire comme éthique, c'est donc s'attaquer à ces questions-là et c'est ce que la littérature nous permet de faire. Donc, l'Afrique dans le monde, il y a deux choses. D'une part, dans la réflexion pour ce que le travail que je fais, je vois, et à la suite je dis, de Ursula Linkeya qui dit que l'Afrique dans le monde, c'est l'Afrique métaphore, hein, l'Afrique comme métaphore, où la noirceur de l'autre permet de se penser. Je lis volontiers, je retourne toujours à Bibi de VLB, où on voit un personnage qui vit intensément à l'Afrique pour retrouver le Québec. Donc, c'est ce prétexte, ce lieu qu'on a besoin pour se trouver, pour se retrouver. Donc, se perdre dans la noirceur de l'autre pour se trouver. Voyez. Ça, c'est une chose. Maintenant, il y a un deuxième volet à tout cela, c'est que c'est lorsque, en allemand, on dit « Man darf den Teufel nicht an die Wand malen », il ne faut pas aller dessiner le diable sur le mur, parce que ce pourrait qu'il vienne vraiment. Alors donc, c'est là où l'image commence à parler, la métaphore s'autonomise et l'image parle, le miroir est au fond un fond vide et qui montre des visages qu'on n'a pas sollicités. Et c'est l'autre aspect de cette Afrique-là dans le monde. Et c'est ce qui fait aussi que Donc, les débats, les tensions sont là. C'est que d'une part, la métaphorisation sert à quelque chose, mais elle sert de communautés qui, n'est-ce pas, en ont besoin pour se penser. Elle sert des discours, elle sert, n'est-ce pas, des imaginaires, cette métaphorisation-là. Mais il se trouve qu'à côté de la métaphorisation, il y a des sujets qui sont concernés et qui, donc, prennent la parole et le miroir commence à parler. Et il dit des choses qui, parfois, donc, posent problème, en tout cas, exigent qu'on y réfléchisse. Je vais finir avec une citation et ce sera la fin comme ça. Je vais m'arrêter avec ça. L'Afrique dans le monde, c'est l'Afrique comme métaphore d'une part, mais c'est d'autre part la présence de ces voix qui sont là historiquement et qui sont là dans le contemporain lié à toutes sortes de dynamiques migratoires et qui finalement entrent en scène et interrogent et se font entendre et exigent donc que dans ce choc des imaginaires et dans cette compétition de représentation qu'il y ait quelque chose donc, qui émerge et qui permette aux sociétés de trouver leur équilibre, en tout cas, qui pose un défi critique théorique aux chercheurs que nous sommes, aux enseignants, aux enseignantes, aux chercheurs que nous sommes. Je commence avec la poésie, je finis avec la poésie. C'est Rodney Saint-Éloi, la fille du baobab brûlé. Elle dit ceci, la fille du baobab brûlé, elle dit « Je ne suis pas l'étrangère comme ils disent, je suis l'indigène des nuits voraces. Je suis la vallée des cadavres sans sépulture. Je suis le zombie qui rôde dans vos calculs. Je suis l'humanité en détresse et le drapeau en berne. Dans les yeux des chiens qui n'ont plus la force d'aboyer. » Et cette fille de baobab brûlée nous dit comment faire, au fond, pour que ces voix-là, qui parfois sont tonitruantes, parfois sont grinçantes, parfois sont stridentes, mais parfois aussi soliloques, et cherchent juste, d'une certaine façon, à trouver les interstices par lesquels donc, on peut les entendre, négocient en tout cas avec les dispositifs qui sont en place pour, n'est-ce pas, se faire entendre. Elle donne les conditions pour qu'il y ait justement une émergence, une véritable émergence, une écoute, quelque chose qui permette, n'est-ce pas, qu'il y ait un équilibre, en tout cas que le vivre ensemble puisse trouver une chance. Elle dit, elle nous donne le secret à la fin de ce recueil de Rodney Saint-Éloi, elle dit « Acceptez-moi comme la braise. Bon, acceptez-moi comme je suis et je vous dirai les montagnes, je vous dirai les prairies. Rien n'est plus beau que de marcher dans la confusion des soleils, les fantômes aux bras des silhouettes, planter les vergers de menthe et la soif des matins vagabonds. La nuit demeure une étoile tant que les orages sont des cerfs-volants. » Merci.
Écoutez, merci beaucoup à vous trois d'avoir été là pour cette superbe matinée. Puis au prochain séminaire. Au revoir.
Merci d'avoir été avec nous jusqu'à la fin de cet épisode. Les balados OIC sont disponibles sur toutes les plateformes de balado-diffusion et sur le site de l'Observatoire de l'imaginaire contemporain à l'adresse oic.ucam.ca.